Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des G.
Les GG cette semaine, ce qui m'a marqué, ce sont les remarques, parfois très dures, contre notre équipe de France cette semaine. Alors les héros enthousiasmants de tout en pays jusqu'à la demi-finale, on a entendu Olysée, nouveau Platini, nouveau Zidane, Mbappé le plus grand, on l'a dit ici, on s'est enthousiasmé. Et c'est vrai qu'après la défaite, on a entendu, et même sur notre antenne, hein, il faut savoir en parler sans problème, c'est ça RMC, on débat de tout, des critiques dans tous les sens, et aussi sur des chaînes de télévision sportive, j'ai entendu une arnaque, on s'est complètement planté sur eux. J'ai tout entendu. Hein. On est passé, pour certains, de tout à rien. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas vraiment le sujet du vestiaire aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle à travers vos expériences de ce sentiment dans le sport de haut niveau. Quand on est porté au nu, et ensuite, d'un coup, du jour au lendemain, presque, on n'est plus rien. On est passé du héros à zéro, du héros national, bah, je vais pas dire au paria, mais un coupable d'avoir manqué à nos émotions d'une certaine façon. Fred, tiens, on commence par toi. Ça te parle, ça ?
Ouais, ça me parle énormément parce que j'ai eu la chance d'avoir un début de carrière assez fulgurant. Je me suis retrouvé à Limoges, j'étais dans 5 majeurs. D'un seul coup, je suis devenu un des joueurs les plus importants de la première division française à l'époque. On appelait ça la Pro A à l'époque. Et je me suis blessé, et c'est vrai qu'en me blessant, j'ai eu un vrai coup d'arrêt, et je me suis retrouvé à des situations où je me blesse l'année où je suis drafté par la NBA.
On rappelle que tu es drafté au New York Knicks.
Je suis drafté au New York Knicks en 15e position. Donc déjà, je vais là-bas, je me fais dézinguer parce que ça fait 7 mois que j'avais pas joué au basket quand même.
Fred, rappelle, pour ceux qui te connaissent pas, hein, t'étais à l'époque un ovni, toi aussi, hein. T'étais pas Wemby, mais pas loin,
en tout cas, dans
ce qui était vendu.
Dans ce qui était vendu, oui, parce que c'est vrai qu'ils avaient jamais vu un garçon aussi grand bouger aussi vite.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'était assez surprenant pour eux. Et d'un seul coup, je me retrouve à être drafté en NBA, mais aller faire une Summer League, donc la ligue d'été juste après la draft, dans des conditions physiques très déplorables. Encore une fois, 7 mois sans jouer, c'est énorme. Je venais de me faire opérer du dos, hernie discale, donc ça change beaucoup de choses dans ton jeu, etc. Et donc, je décide de revenir en France. Je me dis, j'ai besoin justement de retrouver un petit peu de la confiance, etc.
Un environnement bienveillant, peut-être, ou on t'a célébré.
Et donc, j'étais vraiment, encore une fois, vraiment adoré. J'étais dans le 5 majeur de mon équipe. J'étais au All-Star Game, j'étais en 5 majeur du All-Star Game français, etc. Et je me retrouve à jouer mon premier match, et je me rappellerai toute ma vie ce qu'a dit le commentateur après le match. Il a dit, Fred Weiss était en difficulté aux États-Unis, mais il va falloir qu'il en montre un petit peu plus, parce qu'il n'a pas été très bon ce soir. Et ça résonne dans ma tête encore maintenant. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai pris de plein fouet le fait que jusque-là, on m'a porté au nu et que d'un seul coup, il y a eu un coup d'arrêt. On ne pardonnait plus rien. Que d'un seul coup, mes 7 mois d'arrêt, mes difficultés à revenir. Il faut se rappeler encore une fois que c'était une blessure qui était assez sérieuse et assez grave. Et je n'avais que 21 ans.
Alors que tu étais aussi revenu en France finalement pour ça aussi, pour te sentir un peu accompagné.
Un petit peu coucouné peut-être, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est difficile de ce que j'avais pris aux États-Unis. Et d'un seul coup, j'étais un paria, j'étais nul. Quoi que je fasse, ça n'allait pas. Et à partir de là, chaque fois que je venais en équipe de France, c'était de ma faute. C'est-à-dire que à chaque fois que l'équipe de France avait une performance, on ne disait rien de moi. Chaque fois que l'équipe de France avait une contre-performance, on m'attaquait et c'était moi le responsable. Mmh. Et c'est vrai que à cette époque-là, quand, encore une fois, t'as 22 ans, enfin t'as 21 ans, 22 ans, 23 ans, t'es pas forcément armé à ça. Et c'est vrai que t'as pas l'expérience pour te dire que t'es pas aussi bon qu'on l'avait dit au début, mais t'es pas aussi mauvais qu'on est en train de le dire maintenant. Et c'est vrai que ça manque d'accompagnement et que d'un seul coup se retrouver.
T'es pas préparé à ça, rien ne te prépare à ça.
T'es cloué au pilori. En fait, les attentes énormes que ça avait engendrées, ben, d'un seul coup, c'est l'effet boomerang. Et tu le reprends dans la tronche en disant, on attendait beaucoup de lui, il n'est pas capable d'honorer ce qu'il a fait. Et ça a été, pour moi, extrêmement difficile à vivre. Et l'expérience m'a permis de passer outre ça, une nouvelle fois. Mais à 21, 22, 23 ans, t'es encore un gars.
Ouais, mais c'est les choses qui te marquent dans la chair. Et on en parle souvent.
Encore maintenant, pour pas le citer, c'est David Cosette qui avait dit ça.
La voix du basket.
Encore maintenant, dans ma tête, je lui envoie encore un petit peu. Je lui dis, mais pourquoi tu m'attaques? Je reviens, je fais l'effort d'essayer de faire des efforts, justement, ce qu'elle veut dire. Et malgré ça, tu m'attaques. Et je me dis, mais en fait.
En fait, c'est surtout le décalage entre être célébré et d'un coup commencer à être critiqué. Mais après, alors je veux pas défendre la corporation, mais c'est vrai que les journalistes sont pas là pour encenser les performances. Est-ce qu'on est là pour protéger les joueurs? Non, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Je donne pas raison aux journalistes, mais l'équilibre est tenu.
En même temps, maintenant, avec le recul, je suis premier à dire que si on t'encense d'un côté, c'est qu'à un moment,
il faut être juste.
L'important, c'est d'être juste. Complètement d'accord.
La justesse,
sauf que ouais. À cet âge-là, c'est pas toujours facile de le prendre dans la tête, surtout quand t'as été encensé toute ta carrière.
Mais tout comme, et c'est des débats qu'on mène tous ensemble toute l'année, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait cet échange aussi sur Paul Sexas, Victor Wembanyama, Léon Marchand, Antoine Dupont, Kylian Mbappé, nos champions, quand ils ont un jour moins bien, il faut pas commencer à dire, ça y est, c'est bon, il est nul, quoi. Ça y est, c'est bon, il nous a trahis. Il nous a trahis.
Oui, non, le champion n'est plus là. La trahison, la trahison, c'est totalement déplacé.
Complètement.
En quoi Mbappé a trahi qui que ce soit, en fait.
C'est on n'a pas tenu ces propos ici, mais c'est les débats qui peuvent, ce sont des mots qui peuvent être utilisés, oui, aussi sur les réseaux aussi aujourd'hui.
Exactement.
où tout est un peu
on se permet tout.
Ouvert. Alors, vous avez entendu le témoignage de Fred, là, on passe de héros à zéro. Ça vous parle, ça, Sarah?
Alors, oui, ça me parle, mais j'ai eu une expérience de vie. Alors, j'ai pas été très précoce. J'avais pas le gabarit pour être la future numéro un mondiale. En tout cas, je faisais mon petit bonhomme de chemin. Et donc, en 97, de souvenir, je pense que je suis dans le top 50 mondial. Ce sera ma meilleure saison. C'est-à-dire que je finirai 26e mondial juste après Wimbledon. Donc on est en début d'année.
C'est pas dégueu. 26e
mondial. Non, c'est pas dégueu. Non, absolument, c'est pas dégueu. Et donc je suis à Sydney. Donc c'est le tournoi de préparation de l'Open d'Australie en début de saison. Et je joue Natasha Zvereva. Zvereva, pour ceux qui se rappellent, c'est une joueuse qui avait pris 6-0-6-0 face à Steffi Graf en finale de Roland Garros en 34 minutes. Donc
oui.
Terrible. Et donc je joue Natasha Zvereva. Et là, je gagne.
Une finaliste de Grand Chelem, quoi.
Finaliste de Grand Chelem, et je gagne 6-0-6-0. Alors pas en 34 minutes, mais je gagne 6-0-6-0. Et dans les tournois WTA et ATP, si tu veux, t'es tous sur la même ligne, mais on cherche à mettre en avant les jeunes. Enfin, il faut raconter des histoires. Et donc là, je suis la petite française au fin fond de l'Australie qui bat Zvereva 6-0-6-0. Ils disent, bah tiens, on tient, j'ai 22 ans. Voilà, on tient une future pépite du tennis mondial. Et alors là, je me retrouve à la télé en Australie, à faire de la promo.
Ça va plus que Sky.
Enfin voilà,
tu parles bien anglais.
Ben oui, je parlais bien anglais.
Enfin, non, c'est important.
Je parlais bien anglais.
Je te retrouve sous le feu des projecteurs, quoi.
Ouais, je me retrouve sous les feux des projecteurs alors que je faisais mon petit bonhomme de chemin. Enfin, j'étais pas.
Non, jusqu'à maintenant, t'avais jamais présenté comme la pépite ou la craque,
oui,
à venir.
Oui, et puis j'étais pas en deuxième semaine de Grand Chelem. Je faisais mon petit bonhomme de chemin, des quarts, des demi. Je gagnais des ITF. Enfin voilà, et donc je me retrouve sous les feux de la rampe, sauf que je perds le tour d'après et que voilà, je retombe dans quelque chose de normal. Et pourtant, je fais une super saison. Je vais gagner mon premier titre WTA. Je vais finir 27e mondial.
Mais le contraste. C'est dur quand le rideau tombe, quoi. T'étais une star et d'un coup, t'as perdu.
On m'a vu plus belle que finalement je n'avais les capacités réelles de tout ça. Et je me souviens aussi, cette année-là, donc on est à Miami, donc on joue le tournoi de Miami, et t'as des... Comment dire, t'as toujours des opérations de relations publiques, et donc je me retrouve avec Jean-Michel Gambill qui était à l'époque un Américain mais splendide, mais un garçon mais d'une beauté, et donc on va à l'Océarium à côté de Miami, et donc comme je faisais encore partie des jeunes qui jouaient pas mal, j'ai nagé avec les dauphins et avec lui, c'est-à-dire que je faisais les opérations de relations publiques.
T'étais une star, en fait.
Les deux, mon général.
Non, mais t'étais une star.
Et en fait, et alors du coup, que j'avais pas les résultats.
Mais alors, est-ce que ça t'a fait souffrir? Je sais pas si le mot est bon, mais qu'en gros, il y a une espèce de.
J'étais mal à l'aise.
T'étais mal à l'aise.
J'étais mal à l'aise parce qu'on m'érigeait à un niveau comment dire, médiatique, qui n'était pas mon niveau tennistique, il y avait un décalage.
Surtout,
en fait,
que t'avais pas attaché de presse ni rien, les gens.
Mais non, mais à l'époque, on n'avait pas ça. Ouais. Et j'étais pas capable de battre la numéro 1 mondiale, j'étais pas capable de battre Sanchez.
Donc tu prends de plein fouet tous les appels des journalistes, des médias qui veulent parler avec toi.
Je gérais tout seul.
Star,
mais ouais. Voilà, en fait, on me voyait plus belle que j'étais, donc il y avait un décalage et j'étais presque gênée.
Tu t'en rendais compte sur le moment que c'était, qu'il y avait ce décalage-là?
Bah, bien sûr.
Attends, tu t'es dit, j'en profitais, en fait, du coup.
Tu savais déjà, Sarah, que t'étais pas taillé pour.
Il y avait un trop grand décalage physique sur le plan tennistique. J'ai été top 30 mondial.
Donc en fait, tu t'es dit, je vais juste kiffer, je vais aller nager avec des dauphins et avec.
J'ai battu
le Mongol du quartier.
J'ai battu des numéros 10 mondial, j'ai battu des numéros 5 mondial.
Bien sûr.
Mais c'est pas
facile d'avoir ce recul sur soi-même et de te dire, alors que je suis encensé, quand même, il faut que je garde les pieds sur terre sur ce que je suis, ce que je suis capable de faire.
Semaine, encore une fois, au tennis, c'est facile. Hein, tu prends les pieds sur terre, chaque semaine, tu perds.
Oui,
tu
c'est
finis
vrai.
Toujours.
C'est pareil, il y en a dans qu'un tous les sports.
Qui... Mais oui, il y en a qu'un qui gagne. Et tu dis toujours au tennis, que je répète, au tennis, quand tu demandes ce que tu as fait dans la semaine, tu dis toujours j'ai perdu. Même en finale, tu dis j'ai perdu.
Donc,
en
c'est
finale.
Des leçons d'humilité en permanence.
Tu dis pas j'ai fini deuxième comme au 100 mètres, par exemple. Donc si tu veux, c'est une autre manière de voir les choses.
C'est la différence avec le basket, par exemple, où nous, quand tu as une belle équipe, normalement, au championnat de France, par exemple, tu gagnes. Tu gagnes beaucoup plus fréquemment que tu ne perds. Oui.
De héros à zéro, quand on est porté au nu et que du jour au lendemain, comme les Bleus, pour certains, bah, du coup, on compte plus autant. Voilà, on n'est plus aussi enthousiaste, on n'est plus aussi beau. Que vous partagez là-dessus, Pascal.
Pascal est toujours aussi beau, par
Pascal,
contre. Lui, c'est
parce que quand tu gagnes, t'es toujours plus beau que quand tu perds. Ça,
les talents de sa voix. Pascal, bon, tu nous écoutes tout à l'heure. Le foot, c'est un environnement encore plus violent, en plus.
Ouais. En fait, ces montagnes russes, je les ai connues en tant que joueur et puis ensuite en tant qu'entraîneur. Donc, je suis habitué à ça et à plus forte raison parce que quand j'ai été entraîneur, entraînant des équipes souvent du bas de classement, donc j'ai souvent perdu, quelques fois gagné, mais toujours est-il que ça commence très vite pour moi. Et c'est un peu comparable à la vie de chacun d'entre nous, sauf que c'est exacerbé parce que c'est le monde du sport, parce qu'il est médiatisé, même dans les années 80. Donc moi, j'étais promis un très bel avenir au FC Sochaux parce que j'étais porté par le directeur sportif qui décidait de tout. Et puis du jour au lendemain, ben, il a plus pu me saquer. J'ai pas su pourquoi. Voilà. Donc ma carrière de footballeur, elle a existé malgré tout ailleurs. Mais ben, déjà très vite, alors que tu fais des sacrifices, ben, tu sais pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a un type qui t'ouvre les bras et qui tout d'un coup les referme. Donc là, si t'as pas un entourage jeune, j'ai 17 ans et quelques, si t'as pas un entourage on va dire taillé, bien taillé, avec des parents qui te protègent, bah tu peux là déjà exploser parce que tu comprends pas à cet âge-là ce qui t'arrive. Et puis ensuite, si je vais beaucoup plus loin, quand je suis entraîneur de mon club de toujours, j'ai la faiblesse de dire que l'Evian Thonon Gaillard, nous l'avons construit à plusieurs. Mais celui qui a pensé le projet sportif avant les autres, bah, personne pourra me contredire, c'est moi. C'était dans les années 91, le club était au 9e ou 8e niveau de la hiérarchie nationale. Donc il n'y a qu'un fou qui pensait faire revivre le football professionnel en Haute-Savoie. Donc c'était mieux. Bah j'ai beaucoup initié, beaucoup insufflé, aidé encore par beaucoup, bien entendu. Et puis ce club, moi j'étais un peu la star de ce club. J'étais
l'incarnation
de ce club. Et ce club, je l'ai toujours incarné en tant que directeur sportif, puis incarné de nouveau en tant qu'entraîneur, placer des personnes à des postes importants. Et puis il se trouve qu'un jour, quand le club, après 4 ans de Ligue 1, est descendu en Ligue 2, et ben, les personnes que j'avais placées, installées, c'est ces mêmes-là qui m'ont viré. C'est comme
mais
ça.
Est-ce que tu leur en veux ou est-ce que c'était le meilleur choix?
Non, mais où est-ce que tu acceptes qu'on est dans un monde impitoyable?
Je pense jamais à eux, en fait. Si t'es mieux, c'est ma manière de pas leur en vouloir. C'est que je pense jamais à ces gens-là. J'ai pas de rancune, si t'es mieux. J'ai de la rancune quand c'est récurrent. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez de journalistes tout à l'heure, et tu as raison de le dire, Georges. Les journalistes, ils sont là pour commenter l'actualité, et ils sont pas là pour nous cirer les pompes. Mais par contre, il y en a, il me semble que j'ai fait deux, trois trucs pas trop mal dans le foot. Mais il se trouve qu'il y en a qui me cirent jamais les pompes, qui ne font que me défoncer. Tout le temps. C'est gratuit. Et là, donc, il faut que t'aies quand même le cuir épais. Parce que ça touche, bien sûr, au plus profond de toi, celui qui me dit, si aujourd'hui Didier Deschamps, il me dit qu'il n'est pas, tout au long de ses 14 années, il n'a pas été touché par ce qu'il a dit sur lui, c'est qu'à ce moment-là, il travestit un peu la vérité.
Mais alors c'est intéressant.
On est tous humains.
Comment on arrive justement à vivre
blindé,
ça
en fait.
L'expérience,
faut se blinder.
C'est l'expérience.
Une expérience de plus, c'est positiver, pour ma part en tout cas, c'est de me dire, mais j'ai, même gamin, bien sûr, je rêvais d'être footballeur professionnel. Bien sûr, ensuite, je rêvais même pas d'être entraîneur professionnel. Tout ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose de magnifique. Donc, je vais vers le verre à moitié plein tout le temps. Je me soucie pas du verre à moitié vide.
Oui, mais il faut être conscient aussi, critiques. Je pense que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, de la violence de certains moments.
Ah,
par exemple,
violence,
je sais pas,
mais...
à Toulouse, t'as été une superstar aussi. Quand tu nous as sauvé, il y avait des supporters qui avaient ton visage en masque, je me rappelle, en tribune. Et quand t'es plus à Toulouse, l'entraîneur qui qui n'est plus là, il se retrouve chez lui tout seul. Il n'a même plus contact avec les joueurs.
Ah,
c'est ça, la vie
d'entraîneur. Tous les gens qui te cirent les pompes, qui t'appellent, ton téléphone, c'est bien simple. Il est plein de messages quand tout va bien. Tu reçois des messages de personnes, mais ça fait 30 ans qu'elles t'ont pas appelé, ces personnes-là. Donc elles te remercient, ça te fait du bien quelque part, il faut le reconnaître, ça titille un peu ton orgueil. Et puis du jour au lendemain, quand tu es sans club, sans boulot, bah, y a plus que tes proches et ta famille qui t'appellent. Plus personne te calcule. C'est comme ça, mais c'est du jour au lendemain. C'est ce qu'il faut comprendre. Mmh.
En fait, c'est
la différence entre l'entraîneur et le joueur. Le joueur, moi, l'avantage, c'est que je savais qu'à un moment, quand j'ai gagné en expérience, je savais que, en travaillant, en revenant à mes basiques, en étant performant par rapport à moi-même, je savais m'auto-évaluer. Donc, j'avais pas besoin que les journalistes m'évaluent en bien ou en mal. Et donc ça m'a permis de me détacher de ce regard-là. Mais encore une fois, c'est l'expérience qui m'a permis. C'est les coups. À force de prendre des coups et de dire c'est un peu injuste, ou ben là j'ai été bon mais pas à ce point-là. Moi je me rappellerai toute ma vie quand je signe à Malaga en Espagne. Le coach c'est Bozidar Maljković. Bozidar Maljković, dès que j'arrive, il dit Fred c'est le meilleur défenseur d'Europe. Bah toute la saison, même quand j'étais nul, les mecs disaient oh, quelle défense de Fred Weiss. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que les journalistes ils connaissent rien, quoi, qu'ils écoutent les mecs qu'ils sont censés connaître, et donc qu'il fallait mieux que je m'auto-évalue, parce qu'à un moment je défendais plus parce que j'avais plus besoin de défendre, on considérait que je défendais bien tout le temps. Donc je m'auto-évaluais et je me mettais justement à la tâche quand je trouvais que j'étais pas bon.
Tiens, vous savez que les rendez-vous du sport c'est un espace d'échange évidemment avec vous aussi. Fredo me dit sur WhatsApp, pour une fois Georges, je vais pas être d'accord avec toi sur cette sempiternelle réflexion des journalistes pour justifier leurs propos, vous n'êtes pas là pour encenser ou protéger, ce qui permettrait de tout justifier. Par exemple, le quatuor offensif des Bleus, vous l'avez tous mis au Panthéon pendant ce mondial en disant que c'était les meilleurs, et maintenant ce sont des nuls. Alors j'exagère volontairement, je lis le message. Vous avez un devoir de mesure dans les deux sens dans vos propos, et vous êtes aussi critiquable et responsable dans vos écrits. Tu as tout à fait raison, oui. Fredo, là-dessus. Tu sais, l'exercice de remise en cause, il est pour tout le monde. Hein. Les journalistes, on n'a pas la bonne parole, la bonne analyse. Parfois, un jour on est bon, un jour on est moins bon. Comme tout le monde.
Bon,
non, mais comme le boulanger, un jour il fait une bonne baguette, l'autre jour il fait une baguette un peu moins bonne. Hein. Non, mais comme tout le monde. Tous les jours. En fait, l'important c'est l'humilité, en fait. Georges, face à tout ça, dans notre travail
aujourd'hui,
à tous.
Aujourd'hui, malgré tout, alors encore une fois,
il reconnaît que la frontière est difficile, et l'équilibre.
Oui, pour côtoyer les journalistes, votre travail est un vrai travail, qu'on soit bien d'accord. Hein, faire des recherches. Souvent le bon journaliste étaye, recoupe les infos qu'il balance. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où le trash, ça plaît quand même. Hein.
On n'a plus le droit à l'erreur. Plus de droit à la moindre erreur. Mais dans tous les corps de métier, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Plus on balance, plus on a l'impression que les gens s'en satisfont, quoi, tu vois. Donc ça, c'est difficile à appréhender quand tu es celui qui est flingué, quoi. Et bon, tu es celui qui lit des critiques sur d'autres, bon, ça peut te toucher parce que tu es sensible, parce que c'est ta corporation. Mais quand ça te touche directement, il faut savoir une chose, c'est que ça touche davantage que toi. Et là, quand ça touche tes enfants, quand ça touche tes proches qui prennent ces critiques. Là, c'est quand même difficile à supporter quand on vous critique, alors que vous êtes le coach qui a été perdant, donc quand on vous critique, mais ça rejaillit aussi sur tous les membres de votre famille qui savent combien de sacrifices vous faites pour en arriver là.
Non, mais c'est évidemment intéressant d'avoir cet échange, et il faut savoir le mettre sur la table, hein, voilà, pour en parler dans le vestiaire de héros à zéro. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que il y a même des thématiques qu'on a à peine pu évoquer, mais c'est un large sujet, bien sûr. Là-dessus, vous le retrouvez en podcast, évidemment.